Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2024, la santé avant tout pour vous et vos proches. Et aussi bah, une belle année de football, j'espère, mais avant tout la priorité, la santé bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Golasso où on va donc débriefer le derby d'Omigno qui s'est passé donc samedi soir. On parlera aussi du retour en forme de Benfica et aussi du phénomène Victor Gyökeres qui impressionne tout le monde au Portugal pour savoir si c'est. Le meilleur numéro 9 qu'on a eu au Portugal depuis Falcao. Et avec moi, pour cette première émission de 2024, j'ai bien évidemment Mathieu. Comment tu vas, Mathieu?
Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Comme tu l'as dit, une très très belle année 2024 à tous, votre santé, meilleurs vœux. Et elle aurait pu mieux commencer pour sportivement, mais sinon, il y a des choses plus graves dans la vie. Et donc je répète, je vous souhaite une très bonne année 2024.
Philippe, comment tu vas?
Bah pareil, bonjour à tous, bonne année à tous, bonne santé surtout, ouais, parce que ça se voit qu'on commence à vieillir. À partir du moment où tu dis à tout le monde, surtout bonne santé, parce que c'est le plus important, c'est que tu approches déjà de la trentaine.
Ah,
Et
surtout toi.
ouais, surtout moi, bien évidemment. Bah écoute-moi, elle a bien commencé l'année, donc ma foi, ça aide quand t'as. Quand t'as des gardiens. Pardon. Oh non, pas encore. On va pas commencer là-dessus. Non, non.
T'as
Mais
attendu limite 50 ans.
je pense que pour la mention spéciale, peut-être qu'il sera légèrement égratigné, mon ancien. Donc voilà. Très content de faire partie encore une fois du trio toujours présent et de pouvoir parler de tout ça avec vous.
Ouais, on va donc commencer tout de suite par le derby d'Omigno qui a eu donc samedi soir, comme j'ai pu le dire, qui s'est terminé par un match nul 1-1. Match nul, mais c'était pas vraiment un match ennuyeux à regarder, au contraire. On a eu un match assez plaisant, surtout sur cette seconde période. En première période, on a eu un Vitória Guimarães qui s'est surtout contenté de bien défendre. C'est vrai qu'on a vu une équipe comme de Guimarães qui défendait bien en bloc. Braga ne s'est pas procuré énormément d'occasions. Mais Guimarães n'a pas eu énormément d'occasions non plus, c'était une partie un peu plus équilibrée. Par contre, en seconde période, on a eu vraiment deux équipes qui se montraient un peu plus fort offensivement, notamment avec un René Lopez qui s'est bien réveillé en seconde période du côté de Braga. Mathieu, qu'as-tu pensé de cette rencontre, de ton équipe évidemment, mais aussi de ton rival? Je rappelle que, voilà, que Braga a joué sans Menza et Niakate qui sont avec leur équipe nationale pour la CAN. Et du coup, on a peut-être regretté Banza lors de la dernière occasion d'Abel Ruiz en fin de match, qui amène à ce merveilleux but de João Mendes. Je vous conseille vraiment de regarder ce but exceptionnel, qui est sûrement le plus beau but de l'année pour moi au Portugal, de João Mendes à la 97e. Voilà, Mathieu, tu parles un peu de cette prestation de ton équipe.
Que dire? Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est vrai que l'émotion retombée, il y a un très bon match, enfin, il y a un match à analyser. Est-ce qu'il a toujours été très bon, comme tu l'as dit en première mi-temps? Je pense que on était sur une opposition assez frileuse de la part des deux adversaires. Je pense que le Vitória est venu en première mi-temps défendre, d'être tout d'abord compact, de défendre avec cette organisation plutôt basse que médiane, et un Braga qui perd aussi, il faut le dire, Bruma à l'échauffement, avec un Alvaro Diallo qui était complètement diminué. Donc il n'y avait pas que Niakate et Banza qui étaient indisponibles, il y avait Diallo qui était très diminué, qui était sur le banc mais qui n'est pas rentré en jeu. On a eu un Bruma qui se blesse à l'échauffement, et on avait un Alvaro qui était toujours indisponible. Donc il y avait, et malgré ça, je trouve que globalement on a été au-dessus, on a été au-dessus en première mi-temps. En se créant, ouais, à part le but refusé, une seule occasion sur corner. Et on a eu une position assez, je trouve, assez défensive avec ballon. Dans le sens où on n'a pas non plus.
Juste pour revenir sur le cas Bruma et pour revenir un peu ce que tu dis, je pense que ça a aussi modifié pas mal les plans de jeu de Braga, parce que du coup, on a vu vraiment. Bah, en fait, il n'y avait pas d'ailier, il n'y avait quasiment pas d'ailier,
Bah
peut-être
non.
plus tard, dans la profondeur. Et ça fait qu'en fait, on avait vraiment Ronny Lopez et Ricardo Horta qui étaient vraiment à l'intérieur du jeu. Bon, pour Ricardo Horta, c'est habituel, mais d'habitude, on a toujours au moins à Braga, au moins un ailier comme qui colle la ligne, qui déborde et qui prend la profondeur, etc. Et là, on n'avait pas ce type de joueur-là. Et ceux qui faisaient ça, c'était vraiment les latéraux qui prenaient la largeur, donc Vitor Gomes et Borja. Je pense qu'aussi ça a provoqué aussi un peu ce dé début de match un peu poussif, enfin, je dirais pas poussif, mais dans le jeu, au niveau de la percussion aussi, on n'avait pas envie de voir un Braga aussi peu, aussi inoffensif, on va dire, même si le Vitória a bien défendu.
Ouais, donc et après ça peut, c'est pour ça que la première temps, je la comprenais en sens où tu avais aussi cette volonté non plus de pas trop t'exposer. Hein, le Vitor, il y a quand même aussi la mémoire, parce qu'on a beaucoup parlé dans cette semaine-là de la victoire 3-2 en coupe en début d'année, mais on perdait 2-0 à la pause aussi parce qu'on s'était énormément exposé dans les contres. On avait été très mauvais en transition défensive et on a vu un Vitor avec ce même schéma-là, puisque depuis que Laure Pachuco est retourné au Vitor, il utilise finalement le même schéma qu'utilisait Moreno en 3-4-3, 5-4-1, 5-2-3 parfois même défensif, mais globalement il est resté sur certaines bases de ce qu'avait mis Moreno la saison dernière, donc on pouvait s'attendre avec un Vitor qui aurait pu être encore plus dangereux sur les contres. Et donc la première mi-temps, je pense qu'on est sur un 0-0 assez logique avec deux équipes qui savaient très bien que le premier but allait être quand même, aurait dû être, sur un match un peu plus normal, aurait dû être traité, enfin, allait être très important. Il est arrivé ce premier but en deuxième mi-temps, très tôt. Et là, c'est vrai que le match change. Il arrive aussi parce que tu rapproches enfin Ronny Lopez et Ricardo Horta sur le terrain. Donc, il y a cette combinaison sur le premier but et qui amène à cette réalisation de Victor Carvalho. Et ensuite, voilà, tu as ce match qui s'ouvre, tu as ce match qui commence à être. À partir, et t'as un Vitor qui, pour moi, ensuite, même avec un peu plus de temps avec le ballon, même avec certaines des phases de possession un peu plus longues, a été inoffensif, à part sur quelques situations, mais a été globalement inoffensif. Je trouve qu'on a, après l'ouverture du score, encore les meilleures occasions. Il y a l'arrêt extraordinaire de Bruno Varela devant Rodrigo Salazar, il y a la frappe de Ronny Lopez, il y a toutes les occasions de la fin de match dont on reparlera peut-être, qui sont ahurissantes par le fait de les avoir ratées. Et on a ce but-là de João Mendes qui vient d'ailleurs, mais qui pour moi ne représente pas ce qu'a fait le Vitor, parce que pour moi le Vitor a été inoffensif en premier mi-temps et inoffensif ensuite en deuxième mi-temps. Après l'ouverture du score. Donc, c'est clairement 2 points de perdu. C'est 2 points de perdu, soit tes 2 points de perdu face à un adversaire lambda. C'est pas un adversaire lambda pour nous. Et cette défaite, je le vis comme une défaite, hein, clairement, parce qu'on a perdu 2 points. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a été, qu'on a depuis 2 jours énormément de regrets sur ces 2 points perdus qui font très mal à Braga en ce début d'année 2024.
Bah, c'est clairement une défaite. Enfin, je pense que tout le monde l'a ressenti comme une défaite, parce que on l'a vu aussi en fin de match, notamment avec un peu cette image forte, hein, Matheus et les supporters, où je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite prise de tête où Matheus demandait, je pense, aux supporters d'encourager et de faire la chanson de fin de match. Mais c'est vrai que même au niveau des joueurs, on a senti vraiment que c'était une défaite et peut-être un adieu pour la course au titre, même si en début de saison, même si l'objectif n'est pas vraiment le titre, là, on a senti vraiment que c'était bah, compliqué d'aller chercher. Ce titre tant rêvé par Braga avec ce match contre Guimarães.
Oh, c'est compliqué à dire. Je pense pas que après cette défaite, enfin après samedi, tu penses pas tout de suite au titre. Tu penses surtout à la défaite, enfin la fait d'avoir perdu dans un derby. Surtout que voilà, il y avait une tension particulière dans ce match-là en plus, parce que voilà, parce qu'on arrive plutôt, enfin ça fait quelques saisons qu'on gagne pas chez eux, mais ça fait 20 ans qu'ils n'ont gagné qu'une fois chez nous en 20 ans, et ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné chez nous. Donc il y avait surtout ça. Franchement, je pense qu'il avait surtout une déception par rapport à la rivalité. Après, pour le titre et pour la course au podium et tout ça, c'est ça, bien sûr que ça vient, tu y penses après, mais c'est pas la première chose pour moi en tout cas, et je pense pour une grande majorité des supporters qui nous est venu à l'esprit après ce match. C'était surtout le scénario, le fait de perdre comme ça, le fait de perdre sur un but extraordinaire et le fait d'avoir raté des occasions à la fin que tu ne dois jamais rater. Hein. C'est des occasions que voilà, t'en as une déjà, celle de la Belle Ruiz est immense. Après, est-ce que Banza aurait attaqué la profondeur comme l'a fait Belle Ruiz? J'en suis pas complètement certain. Mais en tout cas, c'est en plus celle d'Andorra est presque pire, je trouve, parce que t'as un Rodgers qui est vraiment en train d'attaquer la profondeur et qui est tout seul sur le côté droit et il ne le sert pas. Donc on est plus sur cette déception-là du match-là, de la rivalité en particulier, plutôt que le titre, enfin, tout ce qui vient avec, qui pour moi arrive un peu après, et arrive. Tu veux pour moi un peu le dimanche plutôt que le samedi soir, quoi.
Phil, qu'as-tu pensé un peu de cette rencontre, toi, avec un regard un peu plus neutre, contre ce derby qui a été quand même aussi une bonne pub pour tuer. Et pour enfin, on avait un derby où voilà, c'était le quatrième contre le cinquième avec 3 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait vraiment de l'enjeu et surtout deux équipes qui étaient performantes sur ce début de saison.
Moi, malheureusement, j'étais pas chez moi, donc j'avais pas le, j'étais pas au calme pour voir tout le match, mais j'ai pu voir au moins la première mi-temps et du moins un peu plus sérieusement. Et la première mi-temps, moi j'ai vu Guimarães 4 fois cette année, sachant que le match contre Benfica, je le compte pas parce que déjà c'était moulé, parce qu'ils prennent un rouge très tôt et du coup ça conditionne tout le match et bon, donc ça représente en rien la dynamique actuelle. Mais je les ai vus contre Sporting et contre Porto. Mais là encore, c'est chez eux. Et chez eux, c'est une équipe qui est complètement différente. Contre Sporting et contre Porto, j'ai vu une équipe avec beaucoup de personnalité, qui était conquérante, vraiment, qui avait envie de faire mal à son adversaire et sûre de ses forces. Ça n'a pas été trop le cas contre Braga en première mi-temps, du moins de ce que j'ai vu. Et ça s'explique parce que disait Mathieu, il y a plus ce truc de pas faire d'erreur, justement, de calcul, parce que tu sais que sur ce genre de match, la moindre erreur peut être fatale en ce moment, il y a très peu d'écart, que ce soit au niveau ponctuel, enfin, au niveau comptable. Et parfois même en termes de jeu, que ça peut, enfin la balance, elle peut s'équilibrer, déséquilibrer pour très peu de choses. Donc après, il y a ce but de Salazar qui est refusé pour hors-jeu, qui aurait pu changer complètement la physionomie du match. Et du coup, le fait qu'il soit refusé, ça rééquilibre tout. Et c'est un match qui, du moins de ce que j'ai pu voir, qui était assez équilibré. Après, quand tu arrives à ce genre de. Enfin, je vais pas. Si c'est le plus haut niveau au Portugal et que tu as cette ambition d'aller chercher les plus hautes places, que ce soit au classement et même la course aux meilleures places européennes, et le problème, c'est que tu peux pas rater des occasions comme a raté Abel Ruiz. Ceci dit, moi j'en ai un qui rate des beaucoup moins flagrantes ou des plus flagrantes. Il en rate 4 par match. Quoique en ce moment ça va bien. Mais je pense que Casper l'aurait marqué celle-ci. Hein, parce que ça ressemble un peu à celle qu'il a eu face à Braga. À mon avis, si compliqué. Mais je crois qu'elle est plus dure à rater qu'à marquer. Je crois.
Il a trouvé.
Mais en fait, c'est le. Enfin, je sais pas si Mathieu partage ce truc, mais c'est un joueur qui est super frustrant, Abel Ruiz. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai d'un point de vue
Ah ben
extérieur. Après.
sur moi déjà je pense qu'il est frustré cette année parce que globalement
Non,
il perd
frustrant,
pas
je dis
oui
pour le supporter.
mais je...
Ah, il est
oui
frustré, lui?
frustré lui parce que si tu veux il
Il
perd
joue
limite
moins.
sa place, il joue moins et il a rien fait pour le mériter ça en fait. Il perd sa place en septembre lors du match qu'on va à Moreirense. Et si tu te souviens en fait ce match est lors de la trêve internationale parce qu'on avait reporté à cause de entre les deux matchs face au Panathinaikos
Oui,
et lui il est convoqué
exactement.
en équipe d'Espagne alors il joue que le deuxième match et très peu mais globalement il joue pas avec l'équipe d'Espagne et Bonza est la seule solution et Bonza marque fait un bon match mais très important sur le premier et sur le but de enfin, le but de l'égalisation et depuis Bonza en fait ne fait aucun bon mauvais match presque parce qu'il marque à tous les matchs presque. Quasiment. Il y a peut-être un match face à Roca. Il a 8 matchs consécutifs en marquant. Il a encore marqué sur les 2, 3 derniers matchs aussi où il était. Donc globalement, le garçon, et si tu veux, il perd sa place sans être mauvais finalement à Belrus. C'est juste qu'il était, il pouvait pas jouer sa concurrence lors de ce match face à Moreirense. Après, Bonza fait vraiment un super début de saison et il n'y a pas que dans les buts, je trouve. Il y a une progression. Mais c'est vrai que dans le jeu, Abel Ruiz est un joueur qui, pour moi, est encore supérieur. Qui, pour moi, sur ce match à Vitória, fait un très bon match et l'un des meilleurs avec Salazar et Victor Carvalho. Garde les ballons, sait quand la donner. Dans les décisions, c'est toujours propre. Et c'est vrai qu'il y avait ce but-là à mettre qui aurait déjà changé un peu le cours de sa saison, clairement. Et qui aurait un peu fait taire parce qu'on sait qu'il a des on sait que c'est pas le plus grand finisseur du monde mais il lui aurait donné une certaine confiance que qu'il a besoin depuis ce début de saison c'est vrai que l'année dernière il y avait un peu ce mixte là c'est pas un joueur qui marquait 2, 3 buts par saison il a très rarement marqué des doublés avec Braga mais on a un joueur qui l'année dernière sur la deuxième partie de saison était vraiment très bon dans le jeu et marquait un but tous les 2 matchs qui permettait à l'équipe d'avoir tout simplement une certaine cohérence offensive. Donc, ouais, c'est un joueur qui à Braga, a eu malheureusement trop haut, trop de haut, trop de bas qui rendent ces performances assez irrégulières, quoi.
film, tu as quelque chose d'autre à rajouter ou...
Non, non, mais je partage. Enfin, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Enfin, c'est juste que c'est un peu plus détaillé que ce que j'avais en tête, forcément. Parce que quand tu poses une question à Mathieu, il y a toujours beaucoup de détails qui viennent. Mais ouais, mais ça me conforte dans cette idée que j'avais de lui.
Mathieu, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce match nul, notamment du côté de Guimaraes, où on peut associer un sentiment de frustration, où tu as l'impression qu'en fait, en mettant des joueurs un peu plus, je dirais pas technique, parce que le profil avec Kendall est déjà très bon, mais quand à partir du moment où tu fais rentrer quand même Daniel Silva et João Mendes, tu as un peu plus de maîtrise du milieu de terrain, et on a vu notamment sur les 5-10 dernières minutes où tu commençais déjà à être un peu plus dans le camp adverse et que bah, ce but. Même si l'extraordinaire provient quand même d'une série de combinaisons qui où Vitória s'est montré comme sur les 10 dernières minutes comment dire, avec plus d'envie d'aller chercher ses buts que sur l'ensemble du match.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve quand même à la fin, c'est un peu l'effet du score. C'est-à-dire que t'as que 1-0, tu sais que t'es. Voilà, que t'as enfin, t'as eu deux belles occasions, les occasions d'Abel Ruiz et d'André Horta que tu rates. Donc tu sens que t'as un peu ce 1-0 pour moi à défendre. C'est vrai que le Vitória met un peu plus de qualité au milieu de terrain. Comme tu as dit, João Mendes, Dani Silva sont vraiment des super joueurs. Pour faire ce qu'il voulait faire en fin de match, c'est-à-dire essayer d'avoir un peu plus le ballon, de prendre de meilleures décisions et de s'approcher un peu plus régulièrement. Et j'ai envie de dire, c'est même pas le but de João Mendes, c'est l'occasion de João Mendes de 3 minutes avant, juste après l'occasion de rater d'Abel Ruiz, où c'est déjà plus construit, où tu as déjà une séquence de passes, une séquence de possession plein axe, où tu arrives à surpasser le milieu de terrain de Braga. Et il a une vraie occasion pied gauche qui ne le met pas. Et il en met une 2 minutes après, qui est beaucoup plus difficile et qui la met. Un petit bâtard. Et désolé, il fallait que ça sorte. Hein. Et donc voilà, après, globalement, cette équipe, je ne suis pas impressionné. Je pense que Alvaro Pacheco, j'essaie d'être le plus objectif possible. Hein. Je pense que je le suis quand même assez souvent depuis qu'on fait Golasso sur Vitor. Je trouve qu'il a encore beaucoup de travail. Je trouve que le match de Vitor face à Braga n'est pas extraordinaire. Que ça soit dans les moments. Ils ont bien défendu, certes, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de mécanismes. Pour sortir les ballons en première mi-temps en contre, je trouvais que finalement ça se jouait beaucoup sur la capacité individuelle finalement de Jota Silva à essayer de transporter, d'arriver jusqu'au dernier tiers d'essayer de créer quelque chose individuellement. Et sinon, sur des autres matchs que j'ai pu voir, c'est vrai, ils ont fait un bon match face à Porto au domicile, un bon match face au Sporting que j'ai pas pu voir, mais donc, sur les d'autres matchs que j'ai vus, le match face à Estoril où il y a 2-0 et ils gagnent finalement ce match après le carton rouge de Holzgrove, plus le match au Rio Ave il y a quelques semaines où je trouvais que c'était des matchs à domicile et pourtant ils n'ont pas été bons du tout. Donc je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail dans cette équipe, mais qu'il y a une vraie qualité individuelle et surtout au milieu de terrain qui peut entrevoir un bel avenir pour cette équipe d'ici la fin de la saison.
Je vais lire un peu les commentaires, notamment de Choto Lamka. Bonsoir, allez-vous parler des rumeurs mercato des joueurs portugais? Non, parce que si on doit commenter chaque rumeur, on va pas s'en sortir. Par contre, bah, vu qu'il y a deux rumeurs assez chaudes avec David Carmo à Lyon et Gonzalo Borges à Lille, si ça venait à se faire, on en parlerait lors d'une émission ou même d'un space, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pas de rumeurs, parce que forcément, en cette période de mercato, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sortent. Et si on doit tous les commenter, on s'en sort pas. Mais s'il y a une officialisation qui se confirme pour les deux joueurs, bien évidemment qu'on en parlera avec détail et avec plaisir. Ensuite, Simon Labbé qui nous dit et on souhaite à Braga et leur prochain adversaire d'également perdre 2 points dimanche soir. Vitória SC France nous dit que pour moi, aucune des deux équipes ne méritait de perdre ce match. Un vrai derby avec un bon match de football, à mon sens. Je suis assez d'accord avec lui. Et enfin, et sur cette équipe de Vitória, on en pense quoi? On vient d'en parler, Mathieu vient d'en parler, où je le rejoins assez, même si je trouve quand même qu'il y a une bonne amélioration sur ces derniers mois, avec notamment comment dire, un Alvaro Pacheco qui a continué le travail de Moreno, et c'est pour moi le plus important, parce que c'est vrai qu'il n'est pas habitué à jouer avec une défense à 3, loin de là. Il a toujours à jouer un peu en 4-2-3-1, que ce soit à Wieser ou à Estoril, et il a continué sur des choses qui étaient bien réalisées par son prédécesseur. Il s'appuie sur ça, et maintenant on en attend encore beaucoup plus, ce qui est logique quand tu regardes chaque joueur et le potentiel qu'il y a de cette équipe. On en attend encore bien plus. Maintenant, ils sont là, ils sont présents, ils sont à 3 points de la 4e place. Et on souhaite avoir un Guimarães en haut du tableau, parce que le football portugais en a besoin. Et voilà. Ça n'a pas été encore officialisé le transfert de Gonzalo Borges, non, que je sache, enfin, peut-être là dans les dernières minutes, mais j'ai pas été courant. Enfin, pas encore, ça discute encore de l'option d'achat, ça c'est 20 ou 10 millions, donc, mais j'ai rien vu d'officiel pour l'instant, les gars. Mathieu et Philippe, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce derby, ou on peut passer au sujet suivant?
Bah, juste très très rapidement sur João Mendes, que je pense que, pardon, mais par rapport à sa saison, à son début de saison, c'est peut-être, je sais pas si on peut qualifier de révélation, parce que déjà l'année dernière il était bon avec Chaves, mais comme l'impression qu'il a passé déjà le step qui fait que. Tu sais, quand tu passes d'une équipe en dessous de la gamme, du coup Famalicão, Guimarães, et que tu arrives à ces équipes-là, comme quoi il a passé cette marche, parce que même quand Guimarães était un peu plus dans le dur en début de saison, c'était un des seuls joueurs qui, je trouve, sortait un petit peu du lot, était assez régulier, assez constant. Et l'année dernière, il m'avait un petit peu tapé dans l'œil aussi avec Xavi. J'étais étonné que le transfert se fasse si rapidement, parce que c'est, si je me rappelle bien, je crois que c'était en juin, ou enfin c'était un des premiers transferts de la saison. Bah, force est de constater qu'ils ont eu le nez creux et que ils ont bien fait de le coffrer, parce que c'est un très bon joueur de notre championnat que j'aime bien. Et je pense qu'il sera certainement dans la liste des joueurs peut-être de l'équipe type de la saison, hors top 4 à la fin, s'il continue comme ça.
Il va y avoir de la concurrence.
Ouais, parce qu'au milieu de terrain, il y a du monde, hein. Je suis déjà en train d'avoir quelques noms, et je pense que je vais partir avec des João Mendes, Zaïdou Youssouf, au milieu de terrain, je pense. Mais il y a beaucoup de monde aussi. Faut que je regarde Moulay-Lens, parce que Mathieu, il me parle beaucoup de Moulay-Lens.
Il y a un Gonzalo Franco qui fait une sacrée saison.
Je note.
Alors, on t'entend pas super bien, Alex.
Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match-là ou passer?
Ouais, deux points individuels et un but collectif. Rappeler quand même que Braga joue ce match sans Banzan, Niakate, Almousrati, Bruma et Alvaro Diallo. Et je trouve que malgré tout ça, on a quand même
C'est
été, qu'on a
tout le
été
monde.
supérieur. Donc ça me retracer que voilà, que collectivement il y a une équipe qui reste quand même très solide et qui a des ressources et donc c'est un peu dommage, c'est vrai, d'avoir tous ces absents à ce moment-là de la saison, qui est quand même assez charnière, parce qu'on va à Benfica dans 2 jours, on va à Porto dans une semaine, donc, enfin dans une semaine, dimanche soir, donc ce week-end, donc ça va être
Un sacré
c'est
calendrier, quand
je
même.
sens que, voilà, qu'il y a un sacré calendrier, que tu as quand même collectivement des armes, mais que tu n'as pas toutes tes armes, et donc ça reste un peu frustrant. Et individuellement, sortir un peu la performance d'Abel Ruiz, et surtout ressortir la performance d'un Rodrigo Salazar qui pour moi vraiment est une révélation de la saison, parce qu'il n'a jamais joué au Portugal avant, qu'il est encore très jeune, mais qui veut vraiment fait pour moi un sacré match. Il y a eu quelques décisions, c'est vrai, parce que, enfin, des fois quand il commence à enchaîner, à prendre le ballon et à parcourir des mètres sur 20, 30, 40 mètres, c'est vrai que des fois la décision, le timing de passe est pas toujours parfait, mais il te fait gagner des fois des mètres et des mètres avec ballon. Il te prend, que ce soit même pas aussi par la passe, donc c'est vraiment un joueur qui est vraiment un très très important sur ce match-là, et sur le bon début de saison de Braga, enfin sur les meilleures périodes du début de saison de Braga. Et un Vitor Carvalho aussi qui n'est jamais décevant depuis le début de la saison, qui marque ce but. Alors c'est pas, on l'attend pas forcément là, mais c'est vrai que avec le départ avec les multiples blessures d'Almousrati, on aurait pu espérer le voir un peu plus à Braga, et finalement il joue un peu moins, parce que voilà, il y en a eu ces dernières semaines cette volonté de mettre André Horta et João Moutinho ensemble, maintenant Rodrigo Salazar et João Moutinho ensemble au milieu de terrain pour encore un peu plus de contrôle. Mais c'est un garçon qui fait dans un tel match aussi beaucoup de bien, à la fois défensivement, mais en plus offensivement, avec ses certaines projections et ce but très bien placé, très bien, très important, qui aurait pu être très important samedi dernier.
Ok les gars, merci. On va passer du coup au deuxième sujet. C'est le deuxième sujet qui concerne Benfica, qui s'est imposé encore une fois contre Arouca. Arouca qui est resté qui n'avait pas encore perdu depuis l'arrivée de Daniel Souza. Donc c'est très satisfaisant pour eux, et ça montre aussi que Benfica revient en forme, parce qu'il fallait gagner ce match-là. Ça avait tout du match piège. contre cette belle équipe d'Arouca et 3-0. Donc un but de Rafa, un but de Koksou et un but de l'inévitable Petar Musa. On a eu aussi trois buts refusés aussi par hors-jeu, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, on a Phil, on a l'impression d'avoir, c'est pas encore le Benfica de la saison dernière, ça c'est clair, du moins de la première partie de la saison dernière. On en est loin, mais il y a des prémices. Il y a un site de jeu qui revient de plus en plus agréable à suivre, avec notamment ce jeu dans des espaces réduits qui, avec des combinaisons qui sont déjà un peu plus fluides que lors du début de saison. On a un Benfica qui aussi se rassure défensivement, notamment avec un gardien qui est exceptionnel et qui forcément change de Flavio Dimas. On a une équipe cheap qui est mise en place. Donc voilà, il y a quand même, voilà, il y a du jeu qui revient. C'est pas encore la folie, mais tu sens quand même une nette amélioration par rapport à ce début de saison et les résultats le démontrent.
Dans tous les cas, tout ne sera pas parfait tant que tu n'auras pas de réel latéral gauche et que ton ailier gauche est un joueur qui a besoin de ballon dans le pied, mais sans ballon, c'est compliqué, et même parfois avec ballon, c'est compliqué, alors que c'est censé être sa qualité principale. Tu as un ailier droit qui ne défend pas, et tu as un arrière droit qui n'est pas à son poste, mais qui fait quand même remarquablement bien le taf. Et en plus, si ton capitaine commence à donner des balles de but flagrantes à ses adversaires,
Le problème, c'est qu'il t'en donne au moins 3 matchs à chaque fois, et ça, c'est un vrai souci pour moi.
là c'est quand même enfin deux qui enfin waouh les deux là
Là, c'est l'Otamendi de son
mais
arrivée. Franchement, c'est le même niveau que la saison
ah ouais, c'est Otamendi de City là
dernière.
mais là il y en a une heureusement qui a passé à côté, l'autre maintenant j'ai un gardien qui sort, donc waouh, comme quand on peut ne pas prendre de but. Mais déjà, ouais, il y a beaucoup de. Tu vois, quand même. Enfin, c'est pas encore la folie, hein, mais tu vois des circuits que tu voyais pas en début de saison. Ça me fait un petit peu chier, mais je pense que Florentino, pour l'instant, est pas prêt d'être titulaire, ne serait-ce que parce que tu as tout simplement le meilleur joueur de ton équipe qui est au milieu de terrain. Et tu as Kökçü qui est en train de prendre un peu la mesure du championnat et commence à élever son niveau de jeu, je trouve, depuis quelques matchs déjà, depuis 2-3 matchs. Donc t'as ça, tu as Orsnes qui me semble être de plus en plus à l'aise à ce poste et en plus il est très impliqué offensivement maintenant, beaucoup plus qu'au début. Donc déjà ça joue beaucoup. Et mine de rien, Morato, même s'il t'apporte pas offensivement, il t'apporte cette solidité derrière. Il te coupe quand même des actions importantes, même dans la surface. Donc tu as des choses comme ça. Et j'avais vu un schéma des circuits de passe qu'on avait eu là ce week-end et comparé à des matchs qu'on a eu en début de saison. Genre en début de saison, tout le monde était concentré, tu vois, au milieu du terrain. Et là, ne serait-ce que déjà la ligne de 4, tout le monde avait ce circuit un peu en U où tout le monde avait plus ou moins sa place. Après, les deux milieux étaient resserrés et après, tu avais les ailiers dans le demi-espace et Rafa qui était plus haut que l'attaquant, qui en l'occurrence était Cabral ce week-end. Donc, tu vois que déjà, il y a un peu plus d'harmonie et qu'il commence à je peux pas dire comprendre parce que la plupart étaient là, hein. Il y a eu très peu de changements par rapport à la saison dernière. Il y a deux joueurs, trois joueurs de plus, quatre avec Trouville. Mais déjà c'est mieux. Et je pense que le jour où Cabral sera un peu mieux servi dans la surface, on commencera à avoir un peu plus de buts. Son match n'était pas mauvais samedi, j'ai trouvé. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui récupère le ballon pour le but de Kökçü. Alors que de base, moi je ne l'avais jamais vu faire de pressing. Il est toujours à 15 km. Là, il récupère un ballon, il donne à Di Maria, qui donne à Rafa, qui donne à Kökçü. Donc, ne serait-ce que ça, on est sur de l'évolution. Donc non, écoute, pour l'instant, après, c'est comme tout, hein, avec la confiance, c'est beaucoup plus facile. Donc à voir déjà contre Braga mercredi ce qui se passe, parce que je pense que les coupes sont aussi des objectifs de la saison. Et après, à voir aussi avec le mercato, avec l'arrivée de Marcos Leonardo, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un D9 qui va partir? Si oui, lequel? Est-ce que c'est celui qui vient toujours planter son but alors qu'il joue 4 minutes? Ou est-ce que ça va être un des deux autres parce qu'ils ont coûté un petit peu plus cher? Donc ça, je ne sais pas. À voir si Benjamin Roliesser arrive aussi là ou il arrive en fin de saison pour remplacer Rafa. Donc plein d'encore d'interrogations. On voit des meilleures choses, mais pour moi, c'est surtout parce qu'on est dans une bonne dynamique. À voir le jour où il y a une contre-performance, par exemple si on perd contre Braga mercredi, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Est-ce que les gens vont pas commencer à remettre tout en cause? Parce que chez nous, c'est comme ça, hein. C'est la pluie et le beau temps. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal. Donc, à voir. Mais c'est clair qu'il y a du positif, beaucoup plus qu'au début de saison.
Mathieu, ton avis un peu sur Benfica, mais avant, pour parler aussi un peu du match de ce week-end, d'Arouca, qui montre, je vais mettre un point d'honneur là-dessus, avec la prestation d'Arouca, qui même s'il perd 3-0, ils ont tenté de jouer, avec notamment une défense très haute, alors qu'il y avait quand même Rafa Silva en face. Je sais que en jouant comme ça, tu risques de prendre des vagues dans le dos, notamment avec Rafa Silva qui a attaqué au moins 6 fois cette profondeur et qui marque 3 buts, enfin 4 buts même ou 3, je ne sais plus, mais dont 2 hors-jeu et un vrai but. Donc tu prends le risque de jouer très haut, d'avoir un bloc très haut, de presser haut, mais c'est aussi, ça démontre aussi la philosophie de jeu de Daniel Souza, qui est un entraîneur qui souhaite faire jouer ses équipes. Et là encore une fois, ça démontre que face à n'importe quelle équipe, on souhaite imposer notre jeu, et c'est une bonne chose de la part des petites équipes au Portugal qui se montrent de plus en plus joueuses face aux grosses écuries.
Ouais, t'as complètement raison, Alexandre, de mettre en avant la performance d'Arouca ce week-end. Je pense aussi, tu vois, qu'ils arrivent aussi d'une très très bonne dynamique. Hein. Il n'avait pas perdu depuis qu'il était arrivé à Arouca. Il y avait déjà une. Et très rapidement, c'est vrai qu'il a cette capacité, enfin, sur les deux expériences qu'il a eues en pro, c'est-à-dire Gil Vicente en début d'année dernière. Finalement, il arrive à peu près à la même période avec cette arrivée à Arouca, et à chaque fois, tu sens une patte, tu sens tout de suite une équipe qui est assez confiante de ses moyens, qui sait ce qu'elle doit faire et qui joue avec un jeu à la fois ambitieux, à la fois avec ballon et sans ballon. Et c'est vrai, qu'est-ce que si ça avait été son premier match avec Arouca, est-ce que tu aurais joué aussi de manière aussi ambitieuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, au bout du 5e match et du 4 victoires en 5 matchs, et pour ce sixième match ou ce cinquième match, tu peux te permettre, finalement, tu dis que tu vas peut-être plus apprendre pour ta fin de saison avec potentiellement voilà, de travailler ton pressing, de travailler ton ambition, d'essayer de te valoriser là-dessus et de capitaliser ensuite sur ces prochains matchs face à des adversaires qui seront naturellement moins forts, que d'essayer d'avoir potentiellement peut-être gratté un point avec un bloc bas sans forcément peut-être y arriver, parce que si tu prends un but très tôt dans la rencontre, tes espoirs là sont déjà un peu minimisés. Donc vraiment, chapeau pour ce pressing, chapeau pour avoir sur certains moments aussi ne pas avoir tremblé avec ballon, ne pas avoir essayé d'aller chercher la profondeur ou le jeu direct trop rapidement quand il y avait des options plus simples et plus simples, plus évidentes et plus courtes et qui permettaient de progresser plus facilement. Et le but refusé, bon, il est quand même, Rafa Morica est quand même sacrément en jeu, mais t'as, voilà, cette volonté de construire, de prendre les bonnes décisions, d'aller vers l'avant et d'essayer de ne pas te précipiter pour pouvoir créer ces occasions-là. Donc un chapeau bas pour Daniel Souza, qui se révèle être vraiment des bons entraîneurs au championnat portugais et qui reste toujours, son éviction du Gil Vicente à son dernière restée, malgré il y a eu une petite période quoi, de 5-6 matchs sans victoire. Mais bon, tu t'affrontes un Gil Vicente, enfin tu reprenais un Gil Vicente qui sortait d'une première partie de saison catastrophique avec Oviraldo la saison dernière. Donc peut-être avec un peu plus d'indulgence, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je trouve que cette année avec Victor Campbell, je sais pas, on attendait mieux par rapport à ce qu'il avait fait à Chaves sur ces 2-3 dernières saisons. Mais globalement, un chapeau. Et sur Benfica, c'est mieux, mais c'est toujours pas pour moi extraordinaire. Je trouve que Trubin cache beaucoup de choses. Offensivement, c'est vrai que si tu commences à avoir un Rafa qui met, au lieu de mettre une occasion sur 4, en mettra 2 sur 4, bah, ça va tout de suite se voir dans les stades, ça va, ouais,
c'est,
c'est l'efficacité c'est l'efficacité dans ta surface et dans la surface adverse, tu vois. Donc je voilà, c'est un garçon qui depuis la saison se crée quand même énormément, je trouve, il se crée beaucoup aussi d'un point de vue de la dernière passe, et crée beaucoup par rapport aux occasions qu'il rate devant le but, mais si sur ces derniers matchs il en marque un peu plus, donc forcément ça aide Benfica dans ces matchs de championnat. Mais défensivement, je trouve que c'est toujours très frileux, friable, et que Trubin cache quand même beaucoup de choses. Hein. Si on prend un des modèles assez connus pour les gardiens, qui est les post-shot expected goals, selon ce modèle-là, il aurait quand même déjà sauvé 6 buts depuis qu'il est arrivé à Benfica, sachant qu'il est arrivé en fin de mercato, et que donc il a 12 matchs en entier en championnat.
On l'a pas vu tout de suite en plus. Hein.
Que tu l'as pas mis tout de suite, donc il a que 12 matchs en entier, c'est-à-dire 90 minutes. Bon, pour un gardien, c'est plus logique. 5 buts encaissés depuis qu'il est arrivé, et 11,2 post-shot expected goals, donc 11,2 buts que le modèle estimerait que Trubin aurait dû prendre par rapport à la qualité des occasions adverses. Il en sauve 6,2. Par comparaison, Blackodimos est à 0 quasiment sur la saison dernière. Alors qu'il sauve, il te coûte pas grand-chose sur les arrêts. Après, sur tout ce qui est, bien évidemment, ça ne prend pas en compte.
Il
n'a
rien, quoi.
Mais il a rien sorti qui t'a fait gagner des points. Sauf que l'année dernière, Benfica est champion. Et Benfica, quand même, n'a pas eu besoin, finalement, d'un grand gardien. Et là où cette année, tu as besoin d'un grand gardien, parce que sinon, tu serais peut-être quand même. Et sachant que le Sporting n'a pas de grand gardien, et donc, finalement, gagne ses matchs sans un gardien qui lui fait gagner des points, c'est dire qu'il y a quand même encore, je trouve, un écart de consistance dans les performances d'un Sporting par rapport à Benfica. Le Sporting, voilà, a jokeré cette année et fait tout une très bonne saison et consistante, notamment défensivement, ça encaisse très peu, mais que Benfica est encore un peu en dents de scie et que bah, titre de comparaison, quand les deux clubs sont venus à Braga cette saison, tu as eu un Sporting qui a quand même été plus consistant face à un Benfica qui a quand même encaissé beaucoup plus d'occasions et beaucoup plus d'occasions franches, arrêté par Trubin il y a quelques semaines. Donc on voit une amélioration, c'est vrai, mais je trouve qu'elle est encore pas au niveau de ce qu'on devrait attendre pour un Benfica qui sort d'un titre de champion la semaine dernière. Et par rapport au mercato, et par rapport à tous les investissements qui sont faits, et pas encore l'investissement qui est fait sur Marcos Leonardo cet hiver avec ce transfert.
On a une question de la part d'un auditeur qui nous dit si une charnière Araújo Silva pour la fin de saison serait mieux. Pour ma part, je ne sais pas, parce que si je devrais mettre quelqu'un, moi, ce serait plus Morato, pour avoir un axe droit et un axe gauche, surtout que Morato mérite quand même de jouer à son poste depuis quelques mois déjà. Donc, mais après, Thomas Araújo aussi a montré qu'il avait totalement le niveau pour intégrer cette équipe, mais je pense que c'est totalement illusoire. Je pense que Roger Smith continuera avec son capitaine qui est Otamendi, mais en tout cas, je pense qu'il faudra mettre fin à ce cycle Otamendi en fin de saison, parce que tu sens vraiment que là c'est l'année de trop. C'est ce qu'on craignait un peu en début de saison avec la prolongation, et là tu sens vraiment que ça commence un peu à tirer de partout, et que il a plus trop le niveau pour jouer avec un fil. Je sais pas ce que t'en penses
sur Otamendi.
Ouais,
oui,
ah bah oui, sur la question, pardon,
sur la question et sur Otamendi.
Oui, je partage ton avis. Je pense que si on ramène un latéral gauche, alors à voir. Je ne sais pas quel type de latéral gauche. Pour l'instant, on parle de Alejandro Fernandez, que je ne connais que de nous, ou Francis Cuomo. Donc, à voir.
Ça serait drôle quand même.
À voir qui. Heureusement, il n'y a plus Blackodimos. parce que sinon, il mangerait son épaule dans la tête encore. Mais à voir qui arrive. Si on a un vrai latéral gauche, ça ne me dérangerait pas. Au contraire, je préférerais pousser Morato, même si, sauf blessure ou suspension, il me paraît inconcevable que Roger Schmidt enlève Otamendi, ne serait-ce que avec l'histoire de l'interview et tout. Enfin, ça fait partie de la com aussi du club de le mettre un peu en valeur. Donc non, c'est le capitaine, c'est le leader du vestiaire. Déjà que les autres leaders ne sont pas forcément très expressifs ou très présents. Après, sur le terrain, tu ne vas plus avoir beaucoup de leaders avec du caractère. Mais moi, j'y crois pas. Même s'il sera en méforme ou quoi, ça, on voit très bien que quand même les trois offensifs ne sont pas bons, il y a une question de statut. Même si tu n'es pas bon, mais que tu as le statut, bon, tu joues, tu joues, tu joues, et ça sera comme ça. Maintenant, moi, j'aurais préféré Morato. Ça ne serait pas déconnant non plus de voir Thomas Alaouche, tant le garçon est talentueux. Je pense qu'on le verra un peu plus l'année prochaine quand Antonio Silva ira au Paris Saint-Germain. Mais Otamendi, oui, Otamendi pourra très certainement partir à River Plate, je pense, l'année prochaine. Ils viennent de se séparer de... Ils sont en train de faire beaucoup de ménage. Hein. Emmanuel Mamana, qui est passé par Lyon, s'en va à Vélez. Pareil, Gonçalves Pires s'en va aussi. Donc ils sont en train de nettoyer un peu leurs centraux et leur masse salariale surtout. Parce que même Salomon Rondón est parti, Matias Suarez est parti. Donc les gros salaires s'en vont. Peut-être aussi l'occasion d'accueillir encore un ancien Argentin, parce que lui, il n'a jamais joué à River et il vient de Vélez aussi. Et surtout parce que Lanzini, ça coûte très cher en salaire, donc forcément. Mais ils aiment bien faire ça, rappeler des gars au bercail. Donc pareil, Enzo Pérez s'en va. Donc ouais, il y a beaucoup de départs de vieux. Je ne sais pas si l'idée, c'est de ramener encore plus de vieux. Je pense que De Michelis, justement, veut ramener du sang neuf. Je ne sais pas s'il va rester lui aussi, parce que c'est un peu une pipe. Mais ouais, je pense qu'il ouais, si, ou peut-être que même que quelqu'un va lui proposer d'aller voir le soleil de Miami. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il pourra. Ouais, ça y est là.
Possible.
Déjà que j'avais le. On en a parlé ici en émission. Il y avait ce chose de est-ce que c'est une bonne idée de le prolonger ou pas? Il y a le côté leadership. Mais en même temps, il y a de la relève et tu as trois défenseurs centraux de qualité qui sont derrière.
Et puis il vient de tout gagner. On le voit avec Messi. Enfin, Messi,
Ouais.
il avait déjà au Paris Saint-Germain, c'était pas fou, mais une fois qu'il a gagné la Coupe du Monde, tu sentais vraiment qu'il n'avait plus rien à foutre du football, tout simplement. Et
Encore que je
Otamendi.
trouve que c'est un des champions du monde qui est peut-être encore un des plus, enfin, de cette tranche d'âge, je parle, hein, parce qu'on ne peut pas comparer McAllister, Julian Alvarez, Enzo Pérez, mais de cette tranche d'âge, pardon, je trouve que c'est un des plus impliqués, là où Di Maria, Messi, bon,
Ouais,
bah, ils
mais
sont en vacances.
inconsciemment, il baisse de niveau parce que même s'il est impliqué, tu sens que voilà, il y a un relâchement
Ah, t'es
qui
dans un confort, tu dis, bon, ça y
est.
est. J'ai fini le jeu, qu'est-ce qui peut bien se passer après? Donc à mon avis, soit voilà, je te dis, il part en MLS parce que le copain il appelle, soit il retourne au pays et il va manger des barbecues et ça va bien se passer.
Mathieu,
Donc
merci.
non, je trouve que oui, autant c'est vrai que l'année dernière on avait loué la capacité de Roger Schmidt, enfin le culot de Roger Schmidt d'avoir en fin de saison mis jouer en Neves au milieu de terrain avec peu d'expérience, mais c'était pour sortir un joueur qui n'est pas Otamendi. Il sort Florentino. Là, c'est facile de sortir Florentino. Faut se lire, on voit bien, Philippe l'a très bien
Bien
dit,
sûr.
c'est dur de sortir un joueur du trio, enfin, du trio devant. Soit par rapport à son statut, soit par rapport au prix du transfert. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on a, c'est que ça va être très difficile. Bon, pour moi, Thomas Araújo pourrait, voilà, vu les matchs qu'il fait depuis la saison, je ne vois pas pourquoi sur cette saison-là, il n'arriverait pas à montrer un niveau plus que convenable, voire très bon avec Benfica cette saison. Mais il a un capitaine, c'est vrai, qui sort de tes excellentes saisons avec Benfica et qui, c'est vrai, tout à fait d'accord avec Philippe c'est vraiment l'un des champions du monde en tout cas, qui a mis le plus de temps à baisser de régime, quoi. C'est-à-dire à peu près maintenant, quasiment un an après la victoire en Coupe du Monde, alors que d'autres, et Alex était bien passé pour le savoir, ont baissé de régime une semaine
Débranché,
après, quoi.
ils ont débranché.
Débranché complet, hein, vraiment. Messi, c'est presque là. Voilà, bon, c'était presque trop évident. Il aurait pu au moins faire un effort pour le cacher un petit peu, quoi, à l'époque. C'était quand même assez bluffant. Mais donc voilà, je pense que voilà, on a loué, voilà, Roger Schmidt la semaine dernière par rapport à Joao Neves, mais c'est vrai qu'il y a il y a ce côté statut, ce côté parfois prix du transfert qui, je pense, va jouer peut-être un peu sur le dossier du neuf qu'il va falloir sortir à la fin de la saison, enfin à la fin de saison, peut-être à la fin de ce mercato d'ailleurs, parce qu'il y en a quatre quand même, donc ça pour un poste. Donc c'est des soucis d'entraîneur, c'est des problématiques d'entraîneur, et bon, ils sont bien payés pour les
Pour les résoudre,
résoudre, mais c'est vrai que
bien sûr.
c'est pas la situation la plus confortable. Et je pense, est-ce que voilà, on ne saura jamais, mais est-ce que Roger Schmidt voulait vraiment que Nicolas Otamendi prolonge? Est-ce que c'était pas une prolongation un peu de remerciement par rapport à la semaine dernière? Je ne sais pas, mais Ça commence à être, ouais, peut-être une question de direction sportive qui s'est posée la saison dernière et qui a peut-être été pas vraiment très bien répondu quand tu avais, c'est vrai, Thomas Arojo qui était là, qui est arrivé d'un bon prêt à Gil-Vicens, Inter Morato qui attend sa chance depuis quand même très longtemps.
Phil, avec l'arrivée de Marcos Leonardo, est-ce que tu penses que ça peut modifier considérablement l'équipe et ou pas, ou tu penses qu'il va avoir aussi besoin de temps pour s'adapter et que c'est peut-être pour ça qu'on souhaite conserver tous les attaquants à BFK parce que tu penses qu'il sera prêt que d'ici 6 mois?
À voir déjà dans quel état il arrive, à voir si ne serait-ce que sur ses premières prises de balles, s'il est affûté. Si, bon, après, la saison s'est terminée il y a peu. Il a vécu une fin de saison très difficile avec son club qui est descendu pour la première fois de son histoire. Et en plus, il a été pas mal critiqué apparemment par les supporters. Mais à voir comment il arrive. Après, on a des profils différents, mais j'ai pas l'impression que, en fonction du profil, notre philosophie de jeu s'adapte. C'est-à-dire que t'as beau avoir même un attaquant de
Lui, c'est un
qualité
vrai
comme.
attaquant de surface, hein. Pour le coup, c'est
Ouais,
un
oui,
attaquant de
bah, au
surface.
final, Cabral aussi, tu vois.
Ah, c'est que des attaquants de surface, quoi, quasiment. À part
Juste
Bellerin,
la surface de la plancha, Cabral. Pas d'attaquant.
il y a que Tungsten qui est un peu cet attaquant de pressing que veut Roger Schmidt, mais
C'est trop peu.
Mouzin, on est sur un attaquant plus pivot, et les deux autres sont plus des attaquants, attaquants avancés, renards de surface pour les amateurs qui connaissent bien Football Manager. Donc là, on est sur un autre profil. Après, profil peut-être plus de profondeur, peut-être pour éviter aussi que ce soit toujours Rafa qui prenne la profondeur. Est-ce que moi, j'avoue que je le connais de nom parce que forcément, comme tu sais, toutes les petites pépites, je les connais de nom, forcément, mais je les vois pas tous jouer. Et lui, j'ai pas vu jouer Santos cette année, enfin pas trop du moins. J'ai dû voir un match peut-être. Et puis, enfin, au Brésil, c'est pas comparable. Les défenses, parfois elles jouent hautes alors que les mecs ont 47 ans. Enfin, il y a beaucoup trop d'espace. Donc, est-ce que ce serait pas justement un profil plus d'association, lui? J'ai vu que bon, il avait que 4 passes décisives, mais faut voir aussi tout ce que gâtent les autres. Donc bon, avec Rafa, il est pas verni non plus. Mais peut-être que justement, il y a cette volonté de combiner dans les petits espaces et aussi de pouvoir faire des combinaisons une, deux touches pour pouvoir prendre la profondeur et surprendre un peu plus l'adversaire. Parce que si tu envoies Cabral en profondeur, bon, tu sais que ça va être plus compliqué. Tu vois. Donc, à voir comment il s'adapte, à voir ce qu'il veut faire, s'il se débarrasse d'un des attaquants. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le seul qui a plus ou moins de marché, c'est Pétard. Il y a eu la rumeur
Le meilleur.
Marseille pour Cabral et c'est le meilleur en plus. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on se débarrasse de notre meilleur attaquant pour faire la place à un jeune qu'on a payé 18 millions, tout bon soit-il. Mais, à voir. En vrai, à voir. Ça me ferait chier un peu de perdre Mouzin, je te corrige.
Spécialiste d'un championnat brésilien pour qu'il nous en parle un peu plus, parce que c'est vrai que moi je ne connais pas non plus énormément.
Moi, je le connais que de nom.
Nous aussi,
Et
voilà.
de nom, enfin, je sais que moi j'ai toujours lu des rapports de scouts et que c'était toujours. On me l'a toujours vendu comme un giga crack du niveau de, genre Vitor Roque, Endrick et tout. Et je sais qu'en plus, Dani en faisait la propagande depuis longtemps, mais parce que pareil, Dani l'a vu sur Football Manager et il est très bon.
C'est un peu pour
Maintenant,
Dany,
peut-être.
ça.
Non, mais peut-être qu'il a plus vu, peut-être qu'il l'a vu à Santos. Moi, je vais pas m'inventer une vie. Déjà, je regarde plus le championnat argentin que brésilien. Mais de tout ce que j'ai lu, apparemment, c'est un très bon joueur. Après, moi, quand Everton est arrivé, je disais, oh, vous allez voir, c'est un crack de fou. Je l'ai vendu à mon père, le pauvre. Le pauvre. C'est pour ça qu'il m'a pas cru quand je lui ai dit, Trubin, c'est un crack générationnel. Mais maintenant, il a compris. Il a vu les buts que Vlachodimos a pris contre Blackpool, il a
Bien
compris.
compris.
Ok, non, mais c'est pas intéressant d'avoir du coup un vrai spécialiste du coup, un président pour nous parler de tout ça. On va parler du dernier sujet, donc, justement, on parle du numéro 9. Donc, on va rester sur le numéro 9 de la saison au Portugal.
Ah, le vrai? On parle de vrai numéro 9 là?
Gyökeres est-il le meilleur attaquant passé par le prochain depuis Falcao? Donc voilà, c'est là, je pense que c'est une question un peu subjective, un peu
Oui,
dans tout ça, notre ressenti.
voilà,
Moi, si
ça
tu me poses la question, oui. Après, il y a un peu culture de l'instant, on va pas se mentir. C'est vrai que là, c'est un peu culture de l'instant où forcément ce qu'on voit là nous impressionne. Moi, de mon ressenti, j'avais plus vu ça depuis Falcao, voire Jackson, mais plus Falcao quand même, parce que tout simplement, il sait tout faire. Est-ce qu'il est plus impactant? Je sais pas. Moi, je parle vraiment de plus ce qui m'impressionne, quoi, dans de tout ce qui est. De ce que j'attends en attaquant, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une question subjective. C'est vraiment, moi, c'est il représente l'attaquant que j'aime d'avoir dans une équipe, c'est-à-dire un attaquant qui prend la profondeur merveilleusement, c'est son point fort, c'est la prise de la profondeur, il est excellent là-dessus. C'est un joueur qui est excellent de haut but aussi, c'est un excellent finisseur, il est très bon de la tête, il est complet, il est puissant, il est rapide, il est
tout faire.
technique, il sait tout faire. Et à partir de moi, j'ai pas eu ce ressenti de là depuis très très longtemps. Alors oui, il y a Eddie Jonas, c'était un excellent joueur Jonas, mais je pensais pas aussi, je voyais pas aussi complet. En tant que vrai numéro 9, de ce que j'attends d'un vrai numéro 9, c'est pour moi le joueur le plus fort que j'ai vu depuis Falcao. Et c'est pour ça que ça serait déjà très bien qu'il fasse plus de 6 mois au Sporting. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un club qui pète la clause d'ici une quinzaine de jours. Mais de voir ce type de joueur au Portugal, c'est assez
Ça arrangerait les
incroyable.
choses.
Et c'est un cadeau pour nous. Il ne fera pas plus d'une saison, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour moi, ouais, pour moi, c'est vraiment l'attaquant le plus fort que j'ai vu évoluer depuis maintenant une dizaine d'années. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, toi?
On en a parlé, c'est vrai, un peu ce matin,
Ouais, mais
en off.
c'est
C'est une belle question, en tout cas. C'est un bon sujet de débat. Hein, je le reconnais parfaitement. Mais ouais, j'essaie d'être un peu, d'essayer de me calmer un peu sur la culture de l'instant, parce que c'est vrai que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on suit ce sport, et bon, des joueurs qui ont fait 6 bons mois, des joueurs qui ont fait une bonne saison, qu'on s'attendait à avoir des trucs extraordinaires et qui nous ont tellement déçus après. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de prendre des pincettes. Est-ce que c'est le meilleur joueur au Portugal aujourd'hui? Oui, clairement. Est-ce que c'est le meilleur joueur du championnat de très loin? De très loin, d'assez loin, parce que c'est un joueur qui a pour moi vraiment un impact assez phénoménal sur le collectif de son équipe.
C'est lui qui a participé, enfin il est décisif sur 28 fois au Sporting. Il n'y a pas meilleur que lui à part Harry Kane sur l'ensemble des championnats. C'est-à-dire qu'il est sur 28 buts du Sporting depuis le début de saison, ce qui est juste extraordinaire. C'est le meilleur avec Harry Kane depuis le
Il
début de
joue
saison.
pas au Bayern,
Il joue pas
face à des défenses, quand même.
Bon, t'as bien fait de le mentionner, Alex, bien sûr, et donc voilà, pour moi, ne pas dire que voilà que le Sporting, enfin collectivement, pour moi, c'est déjà comment dire, c'est déjà fort ce que fait Ruben Amorim, du fait que depuis 4 ans, t'as très peu de baisses compétitives de son équipe. T'es sur quasiment tout le temps le même schéma, t'es quasiment tout le temps les mêmes dynamiques, mais il arrive, alors c'est vrai qu'il y a eu des changements et quelques transferts depuis, et qu'il y a des joueurs très importants qui sont partis, qui ont été plutôt bien remplacés par moment, parfois d'autres ça a été un peu plus compliqué, mais globalement ça fait 4 saisons qu'il maintient quand même un niveau compétitif de son équipe vraiment assez bluffant, et que tu regardes même le Benfica de ce début de saison, enfin. Ou même le Porto de Conceição sur les 6 dernières saisons, t'as eu des parfois tu vois le Porto de Conceição aujourd'hui, t'as des baisses de niveau que tu n'as jamais vu au Sporting. Est-ce que tu as déjà vu un Sporting aussi fort que le BFK la saison dernière? Non, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à Amorim, mais tu n'as jamais vu un Sporting qui depuis qu'il est là et depuis qu'il est entraîneur finalement a baissé de niveau. Et c'est vrai que Gyökeres est le facteur X par rapport à la saison dernière, dans le sens où désormais tu as un joueur qui, dans la surface adverse, est monstrueusement à l'aise et te crée à la fois par le fait d'être à la finition et à la fois par la dernière passe, et te crée un nombre incalculable d'occasions dans un match. Donc ça aide beaucoup. Même si voilà, je trouve que collectivement, le Sporting n'a pas, dans ce jeu offensif, n'a pas tant évolué que ça, et que tu as une individualité qui change beaucoup, beaucoup, et que si tu l'enlèves, tu te retrouves un peu peut-être avec le Sporting la saison dernière, c'est avec un Sporting qui est très dépendant du niveau d'efficacité d'un Pedro Gonçalves, et qui a un gardien qui est un des pires gardiens du championnat depuis le début de la saison. Donc,
Plus 3 ans.
voilà. Maintenant, revenons au sujet.
Avant, il y avait débat.
Avant, il y avait des débats. Maintenant,
là, il n'y en a plus. Deux merci.
Donc, mais sur ce sujet, oui, j'attendrai. Voilà, j'attends une saison quand même avant de le mettre dans la case d'un Falcao. J'attendrai d'ailleurs de voir ce qu'il est capable de faire avec le Sporting en Ligue Europa. Savoir si aussi non quand si, voilà, sur, si le, dès que le niveau de des oppositions Ligue Europa vont augmenter, est-ce qu'il sera il sera aussi au rendez-vous, tout aussi au rendez-vous, et voilà. Après, c'est vrai que voilà, comme je dis ce matin dans le groupe avec les copains, pour moi il y a des joueurs qui, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Jonas, que ce soit Hulk, depuis Falcao, que ce soit Jackson aussi que j'avais oublié, mais que évidemment, sont des joueurs qui, pour moi, dans des profils et des registres footballistiques très différents, bien sûr, parce que j'ai évoqué des milieux, j'ai évoqué un ailier, et de neuf qui était quand même assez différent, c'est des garçons qui, au Portugal, plantaient, créaient comme des malades mentaux, et qui avaient un peu voilà, ce même côté de la performance et ce même côté de la quantité qui facilitait beaucoup les rencontres de leurs équipes dans le championnat. Et Gyökeres à ce côté-là aussi. Donc, faire un classement tout de suite, voilà, j'attendrai encore une saison. Il fait partie de ces castes-là. Il sera peut-être le meilleur depuis Falcao. Est-ce qu'il est meilleur que Falcao aujourd'hui? C'est peut-être mon côté nostalgique qui le dira, qui dit ça, mais Falcao est un des neufs qui m'a le plus impressionné dans ma vie, et donc j'attendrai encore un peu avant de sortir cette.
Non, meilleur, non, je dirais pas que c'est bien meilleur. Non, aussi fort, moi,
meilleur. Mais Jackson était extraordinaire aussi, hein, sans blessure. Il avait aussi cette capacité à, tu vois, à donner cette sensation que tu partais avec un but d'avance. C'est un peu ça le côté, tu vois. C'est Bruno Fernandes était un joueur qui, voilà, qui même à United, c'est ça qui est fort, c'est qu'il a réussi à quand même confirmer aussi le fait d'avoir ce côté de pas toujours forcément être bon dans le jeu, mais d'arriver à te mettre à avoir des actions décisives, tu vois. C'était pas que 20 ou 15 actions décisives, c'est entre les buts et les passes décisives, c'est 30 actions décisives par saison, et ça dans un championnat en plus qui plus est le championnat portugais, ça t'aide énormément, parce que voilà, c'est quand t'es dans un grand, c'est le premier but qui compte, c'est le fait de se mettre bien dans ta rencontre. Et si tu as des joueurs qui sont capables, face à des blocs bas, de te résoudre ces situations-là, et c'est ce que Gyökeres est en train de faire. Est-ce qu'il le fait mieux que les autres? Est-ce qu'il est plus impressionnant que les autres? Voilà, j'attends encore une saison, mais j'attends encore de voir.
Phil, ton avis sur Gyökeres, est-ce que c'est pour toi le meilleur neuf passé au Portugal depuis Falcao?
Depuis Falcao, oui, je pense bien. Alors ça dépend comment on veut mettre le curseur par rapport au débat, mais de par son profil hyper complet, le gars est bon techniquement, il fait des passes, il marque des buts, il prend la profondeur, il va au duel, il est endurant, parce que même le match où ils prennent le rouge, il continue à courir, et j'avais encore peur alors qu'on était à 11 contre 10.
Tu as totalement raison d'avoir peur.
Et encore j'ai un gardien maintenant. Ce que je trouve qui est important pour un neuf, c'est surtout d'être craint par tes adversaires. Et en fait, je trouve qu'il y a plusieurs étages. Tu as un étage qui est composé de mecs comme Jonas, comme Bas Dost et Jackson, qui pour moi n'est pas au niveau de Falcao. Et là, pour l'instant, des 6 mois de Gyökeres, il me fait peur comme me faisait peur Falcao, comme je pense Cardoz a dû faire peur à pas mal de gens, surtout à Rui Patricio. Et surtout, celui qui m'a le plus traumatisé dans mon enfance, c'est plus... Bon, putain, j'ai quel âge? C'est Mario Jardel.
Il fait l'ancien. Ouais. Hein. Ouais, 2002, ouais. Frère.
Il
a 8 ans.
Mais les gars,
t'as eu peur de Jardel, demi-finale de Ligue Europa face à Braga, mais ouais. Mario Jardel, non.
Non, mais c'est quoi Jardel, Sporting.
Moi, Jardel, je me rappelle pour ses départs à Marseille, t'as qu'à voir.
De quoi? Mais non, mais moi, je l'ai vu jouer à Sporting, moi, avec Jean Pinto et avec Akroche. C'est
le départ à Marseille.
Donc déjà, c'est...
Ah non, moi, c'est à Sporting. J'ai même pas vu jouer à Porto, pour te dire, mais j'ai vu jouer à Sporting, et même à Sporting en fin de carrière, mais gros, mais je regarde le foot depuis que je marche. Oh. Mais demande, tu vas voir, mon père, il va faire des commentaires. Mais je te jure, Et je sais,
S'il
moi,
vous
ça m'a
plaît, Monsieur Dacosta, soyez honnête hein, sur
ça m'a
le côté
traumatisé parce
Philippe
que.
a vu Mario Jardel jouer.
Non, mais les gars, on est une émission sérieuse, vous ne vous laissez pas parler
Alors, on est une
sérieusement.
émission sérieuse, tu nous sors un joueur qui a arrêté le foot il y a 20 ans. Et t'en as
Moi, je
30,
pense
mais.
que le club suisse, c'est qui? C'est Osebio, je pense. Osebio et moi.
Oh, vas-y.
Osebio
C'est
et
pas
moi.
bien en plus.
Il
Ça,
répond
c'est
en
pas
paix.
bien de faire des trucs comme ça.
Osebio m'a
C'est pas bien.
Casse son âme.
Mais non, mais je te jure, lui, il m'a traumatisé. Après, bien sûr, il y a eu Lietzen, forcément aussi. Mais Lietzen, c'est pareil, c'est le même niveau que ceux que j'ai cités, donc Bas Dost, Cardoz et
Attends, tu mets Bas Dost dans la case Jackson?
moi, Jackson, je le trouvais redoutable en championnat, mais parce que
Oui,
Bas Dost,
bah,
il marquait
jusqu'à
énormément en
maintenant, je
championnat.
guérisse, il n'y a qu'en championnat qui réussit. Hein, donc
Pour l'instant, oui, c'est pour ça que c'est ce que
On
je
n'aura
dis
pas
ça
dit
avec des pincettes, parce que pour l'instant, on n'a pas vu encore aussi de. Enfin, au-delà de Benfica, Porto et Braga, il n'y a pas. Enfin, on n'a pas vu encore tout en haut, tu vois. Alors que Falcao, tu pouvais lui ramener n'importe qui et ça plantait des buts. Et il y a des matchs contre Spartak Moscou, il fait moins 18, le ballon il avance pas, il met, je crois, triplé, un truc comme ça. Et c'est n'importe quoi, Falcao. Donc.
Falcao, ça va être compliqué de faire mieux que Falcao. Falcao, ça va être.
Bah, Mario Jardel.
Mais ah, si je peux rajouter un tout petit truc, il y a aussi, je pense, malheureusement, dans le football d'aujourd'hui, il y a quand même le côté physique impressionnant physiquement qui joue un peu sur l'analyse.
Forcément.
Et
Ouais.
tu vois, je pense que tu donnes 10 kilos de plus à Jonas, alors peut-être qu'il n'aurait pas été aussi.
Ah, mais il
Et
arrive
5 ans
déjà en.
et 5 ans de moins, et voilà, et 5 ans de
Ouais.
moins quand il arrive. Donc c'est ça la force du Jokeres, c'est par rapport à, par exemple, à Jonas, c'est vrai qu'il performe, il se performe plutôt, même s'il n'est pas non plus, il n'a pas 20 ans
Mais
Jokeres.
Jonas à
Hein.
Valence, c'est pas incroyable, hein?
C'est pas mal. Si, il y a une saison qui est pas mal quand même.
Non,
C'est une
oui, il y
saison
a
qui est
une
pas mal.
saison qui. Moi, quand il
Mais.
arrive, je m'attends pas à ce que le gars plante
Oui,
30 buts en
d'accord.
saison.
Mais si tu après tu prends juste au Portugal. Il a eu des saisons absolument folles. Enfin,
Ah
Jonas,
oui, bah bien sûr.
avec son
Bon, après,
physique d'employé modèle au bureau tous les
quand t'as
matins,
Neymar aussi,
il.
c'est facile. Oui, c'est un physique de secrétaire. Expert
Ce que je
comptable,
veux dire, c'est
voilà.
que Jonas, moi, si tu parles de Jonas, parce que voilà, moi aussi, j'ai eu peur de beaucoup de Voneuf, j'ai eu plus peur de Jonas, par exemple, que de Cardozo. Alors après, c'est peut-être parce que Cardozo, on lui a fait un peu la misère de temps en temps, mais Jonas, pour moi, c'était l'impression que le gars
Après, Jonas,
était
il a
marqué,
Lima
quoi.
aussi, ça change beaucoup,
Il n'a
hein.
pas l'IMAP tout le temps. L'IMA, il l'a que
Bah,
la première.
il a Lima la première,
La deuxième, je suis pas
et
sûr. Je...
après, il a Rodrigo.
Oui,
Il y a aussi, parce qu'il est bon en ce moment-là. Donc,
c'est vrai, il se complémente
on n'a pas
bien.
cité
Et...
Seferovic, mais on aurait pu.
Non,
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 je
non, non,
rigole,
mais
c'est une
on est
blague,
sérieux
c'est une
là.
blague, c'est
Hein?
une boutade. Pardon. Mais tu vois, bah, moi, typiquement, j'avais plus peur de Benny McCarthy que de Jackson.
Sous ma gueule.
Non, mais McCarthy, c'est pas si vieux non plus.
Ah, c'est
C'est quel
2004
âge?
quand même. Enfin...
Non, McCarthy, je me
Ouais,
rappelle encore,
mais...
ça va.
Non,
Ta
mais
mère.
si, quand
mais
même.
les garçons, vous fêtez vos 30 ans cette année, je vous rappelle. Hein.
Oui, ouais,
Vous avez
McCarthy,
dû le
non,
dire.
McCarthy,
Mais...
t'as 18 ans et demi,
McCarthy,
c'est pour
c'était
ça que tu
horrible.
m'as dit
Heureusement
McCarthy.
que
Non, mais.
qu'il
Parler
avait
McCarthy,
tendance
c'est horrible.
à se blesser pas mal, mais McCarthy, c'était horrible, hein.
Si je vais parler Karoglan aussi, tu vas me dire que t'as eu peur de Karoglan. Non, mais.
Mais non, mais moi j'avais peur de Fary, s'il te plaît, quand on allait jouer nos baisses.
Ça, c'est un humoriste, hein. C'est pas un joueur de foot.
Oh, vas-y. Vas-y. C'est pas
C'est
bien,
l'époque
c'est pas bien.
où c'était dur d'aller jouer au BS, c'est ça? Je dis ça, mais.
Ouais, bon, cette année ça n'a pas
Où
été simple non plus, hein, j'ai pas.
c'était rempli le stade.
Ah
Enfin,
ouais, mais t'as sorti la sulfateuse?
on dévie. Mais non, mais je
Ouais,
pense
oui.
que, franchement, je trouve que. Voilà, après,
Après, ouais,
on marque
y a
quelques
c'est
souvenirs,
difficile.
mais
C'est
Jackson,
dur, ouais.
Jonas, Bruno Fernandes, le gars, tu sais qu'il arrivait à 30 mètres avec le Sporting.
Ouais, mais c'est pas un
Même si le
neuf.
Sporting faisait un vieux match, non, c'est pas un neuf, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des garçons qui, dans le côté game changer, dans le côté t'as peur d'eux parce que tu sais qu'ils peuvent créer n'importe quoi, un peu n'importe où, à n'importe quel moment, alors que leur équipe collectivement peuvent être pas dans leur match. Je trouve que t'en as eu depuis Falcao. Après, on fera le classement peut-être à la fin de la saison,
Ah oui, c'est
mais
difficile,
même un
ouais.
Hulk, je suis désolé, Hulk,
Mon
moi il
père,
m'a
il a
traumatisé,
raison. Et
Hulk.
Licha Lopez aussi, c'était bien relou. Hein.
Ah, ils
C'était
ont
un
repris.
peu.
peu avant Falcao, donc il faut.
C'est vrai que
On n'a pas mis
c'était
ça.
ça. Mais ouais, non,
Et...
mais. Mais.
En tout cas, ouais, en tout cas, moi, depuis la KO, je trouve que. Ouais,
Ah, mais
que...
je suis dans le sens où le gars
Dans le
est
débat, on
complet.
se débat en
Mais
lui-même,
après, c'est peut-être le truc, le fait que, comme tu dis, depuis Falcao, ça fait un peu genre je le compare à Falcao. Et j'ai pas envie de comparer à Falcao parce que Falcao pour moi est trop fort.
Non, c'est genre
Compare
vraiment
quelque
c'est
chose.
le joueur en attaquant.
Mais oui, je joue, je
Si
joue.
quelqu'un aussi qui nous a plus impressionné comme numéro 9 depuis Falcao, moi ma réponse c'est oui.
J'attends
Après,
juste là, parce
aussi fort que
que...
Falcao ou plus que Falcao, ça je pense pas. Ça, je pense qu'on
Est-ce
aura.
qu'il met des grands buts de la tête en finale de Coupe d'Europe? Tu sais, le mec, il se met un CSC, t'es tout seul.
Mais
Mais...
non, ouais, moi j'ai pris une Madjer en l'air retournée quand on prend 5-0 là. Mais c'est un but de
Oui.
fou. C'est un but de fou. Et le gars avait une détente alors qu'il faisait 1m42. Il prenait des ballons. Non, mais c'est le mec où tu sais que tu pouvais jouer. Alors, heureusement ou malheureusement, l'année de Villas-Boas, il joue. Il jouait l'Europa League, mais tu sens que ils auraient pu jouer le grand Barcelone de
Ouais,
l'époque. Il aurait pu planter. Il pouvait planter n'importe qui. Bon, déjà l'équipe était stratosphérique parce que tout le monde était presque à son meilleur niveau, mais lui surtout, tu sais que tu pouvais jouer n'importe qui et à tout moment il pouvait marquer. C'était
bah, c'est le
super
meilleur neuf au
relou.
monde. Une fois qu'il part à
Ouais.
Madrid, c'est le meilleur neuf au monde. À partir de
Pff,
là.
non mais Atlético. La
Même
pré-saison
les...
avec l'Atlético, le mec il t'envoie des ciseaux sur corner, sur des tournées aux États-Unis.
Merde.
Non, c'était
Il te
n'importe
remet
quoi.
un doublé en finale. Après, il te met un doublé en finale de Ligue
Passer
Europa. Enfin...
de
Ah non,
Falcao
mais
à
c'est
Taremi
vraiment...
et Tony Martinez, il faut se
Ouais.
mouiller la nuque. Hein. Ils sont
Question
trop plus forts
pour...
que Falcao à Porto. Non, ça, non.
C'est Louis, je réponds dans le chat si tu es d'accord avec ça. Si, parce que Flavio est plus trop traumatisé par Falcao. Mais non,
Ouais.
Falcao, ah, il y en a eu beaucoup. C'est dur, hein, mais Asie, à part peut-être
Mario
Luis
Jardel?
Suarez,
Ah non. Ouais.
il n'y en a pas
Ah, mais...
beaucoup de neufs, hein, qui m'ont plus impressionné que
Ouais.
Falcao sur une courte période, enfin sur une courte période, parce que c'est vrai qu'il aurait pu faire tellement mieux s'il n'avait pas été blessé. Mais même après sa blessure et son retour de blessure et les saisons qu'il fait
Suarez
à
Liverpool?
Monaco,
Ah ouais, mais non,
Ouais,
mais
je suis
j'avoue, même
d'accord
Suarez.
Suarez même là-bas, ouais, Suarez Liverpool,
Ouais, c'est
Suarez
vraiment trop
Barça,
bien.
les... Enfin, même Suarez, je veux dire, Suarez, Atlético, à 30, 35 piges, il y a une Liga, tu vois, donc
Ouais.
c'est le genre d'attaquants qui, ouais, qui sont...
Agüero
Falcao était
Debuchy,
peut-être... Attends, attends, attends.
après moi j'aimais beaucoup le garçon,
Non mais Falcao, c'est... Moi, vraiment, c'est le syndrome de Stockholm, hein. C'est que le mec m'a fait vivre le pire, l'un des pires moments de ma vie sportive, et pourtant, j'adore le joueur, quand même. Et j'aurais kiffé qu'il joue un jour chez nous, même à 35 piges, tu vois, donc, même
mais.
si... Même après ce but, donc...
Ouais,
Donc
non, mais
ouais,
je te
je ne
comprends.
souhaite pas à Gyökeres la même carrière au Sporting. Par contre, en dehors. Super,
Bien
super
sûr.
neuf, hein. Vraiment super neuf.
Bon, les gars, je pense qu'on a clôturé cette émission et ce débat qui était passionnant.
S'il
Hein, c'était
pou
un
pouvait
débat
partir là tout de suite.
controversé.
Oh, s'il peut pas.
Ouais,
Comment?
Comment il s'appelle Todd Bailey? Je vais appeler Todd. Parce qu'il
Si...
n'a pas
Ah
100
oui,
millions en.
non, non.
Parce qu'il n'a pas de neuf, donc autant dépenser concrètement bien 100 millions cette fois-ci.
Ouais. Que ça sert à quelque chose. Parce que
Ouais, voilà.
hey, Nicolas Jackson, merci, mais
Oui,
ça
mais
y est,
c'est du coup, à ce qui paraît,
la blague, elle a assez duré.
il veut investir sur Sporting, donc voilà.
Je suis contourné le
Non, mais
truc.
on lui a pas demandé d'acheter le Sporting. Juste Gyökeres, ça suffira.
Visiblement,
Il
mais
n'y aura plus de
visiblement, c'est en
Sporting.
cours. Donc, il veut avoir des parts au Sporting. Donc,
Oui, mais bon, il va se
Ah ouais,
retrouver
après, comme
contre
ça sera
Zidane.
assuré
Qu'est-ce qu'il va
qu'il
en
sera
faire?
Chelsea. Oui, il va mettre un Chelsea.
Bon.
Mais...
Il va envoyer Adane et Coates à Strasbourg. Ça va être bien mignon cette histoire.
Enfin, on a fini cette émission. On va passer donc aux mentions spéciales. Moi, j'en ai une petite mention là, qui arrivait tout à l'heure, malheureusement.
Ouais.
L'année 2024 commence mal pour les légendes du football. Après Zagallo, c'est Franz Beckenbauer qui nous a quittés. Donc, voilà, une légende du football qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà, champion du monde en tant que joueur en 1974. Champion du monde en 1990 en tant que sélectionneur. Champion 3 fois de la Coupe d'Europe des champions avec le Bayern. En 75, 14, 116, enfin, le plus grand joueur allemand qui est passé par l'histoire, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le meilleur défenseur de l'histoire, sûrement. Ça, c'est subjectif aussi
Défenseur,
pour
milieu, attaquant, tout ce que tu
les
voulais.
générations, mais voilà, c'est une légende du football qui nous a quittés aujourd'hui. Je voulais lui rendre hommage ce soir. Donc, voilà, j'espère qu'il repose en paix, que toutes mes condoléances à sa famille. Mathieu, as-tu une mention spéciale?
J'aimerais juste savoir si le père de Philippe pense à Paoletta.
Moi, j'aime
Mais
beaucoup.
le problème, c'est qu'il faut pas s'attaquer à Paoletta, monsieur. Il y a
Ouais.
des gens qui...
Il en a marqué beaucoup sans pénalty, hein, Pauleta, quand
Ouais,
même.
mais pas avec le Portugal. Ah
C'était le
non,
meilleur
non, mais
Norvégien
non,
qui
au
pouvait
Paris
faire.
Saint-Germain.
Voilà. Meilleur attaquant du monde, on n'attaque pas Pauleta, s'il vous plaît.
Le nombre de Portugais qui sont devenus fans du Paris Saint-Germain à cause de lui.
Putain.
Hein, Alex?
Non, c'était avant.
Non, Ronaldinho, toi.
Attends, un Dino. Mais
Ah,
Pauleta,
bien
ouais, c'était
sûr.
une émotion. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré pour du foot, à part l'Euro 2016, quand il y a son dernier match contre Saint-Etienne, là. Oh là là.
T'as pas pleuré pour Ray?
C'était Camara, c'était en quoi 98, j'avais 4 ans.
C'est une boutade.
Ah, putain. Non, non, non. Paulita, sacré attaquant du Paris Saint-Germain, légende. Bon, vas-y, Mathieu.
Oui, c'était une boutade. Sur notre débat, je pense que si Eder se blesse pas, il fait mieux que... Oh. Je rigole. Mieux que Gyökeres, en tout cas. et non, non. Oui, tu disais, Philippe.
Mieux que Zé-Louis, peut-être, mais...
Mais tu sais que Zé-Louis prend la place d'Eder à Braga à un moment.
Ouais. C'est
vrai. Et on n'a pas mentionné Diego Costa qui a fait une bonne saison à Braga.
C'est vrai que c'est dommage qu'Eder soit pas revenu au Portugal.
Très cher. Très,
très cher. C'est dommage qu'Eder ne soit pas revenu au Portugal. Genre dans un Moléliens, c'est tout, ça aurait été drôle.
Non, ça aurait été cool. On aurait pu l'acclamer tout le
week-end. Ouais, voilà. Et je pense qu'il aurait dû le faire. Bon, il n'est pas pris sa retraite encore. Non, non, mention spéciale pour un historique, pour le club de l'Académica Coimbra, qui est premier de son. Oui, bien joué, je n'avais pas pensé, bien sûr. L'Académica Coimbra, qui est premier de sa poule en Liga 3, donc en 3ème division, avec un projet qui détonne un peu par rapport à ce qu'on voit dans les divisions inférieures au Portugal. Des fois, tu as quelques jeunes qui apparaissent, mais c'est un club qui, depuis qu'il a pris un excellent entraîneur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thiago Moutinho, qui a fait du très bon travail à la Saint-Jonas les deux dernières saisons, est arrivé là avec un capitaine qui a 19 ans qui s'appelle Stitch. Bon, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe en poste derrière droit, mais ouais, Stitch, bon, c'est son surnom. Mais qui venait de la formation.
Amaro aussi,
je crois, Diogo Amaro en défense centrale, tu as Stitch sur le côté, tu as.
Faudrait prendre l'adjoint de Guardiola.
J'ai pas compris.
Manuel Lilo et Stitch.
Oh putain.
Pardon.
J'étais bien lancé, mais
excuse-moi,
le club manque au football portugais. Merci Marco, on va repartir sur la mention spéciale comme ça. Mais voilà, Diogo Amaro, un Davila prêté par l'Union de Lirium, qui est excellent. Des très bons joueurs, Vasco Gomez. Et ils sont premiers de la poule, ils vont logiquement se qualifier pour les playoffs. Et comme des Union Leria qui ont enfin réussi à monter l'année dernière, comme des clubs comme l'Académica Coimbra, bah c'est ces clubs-là qu'on veut au moins dans les deux premières divisions et pas des clubs contrefaits, hein, comme la VS ou la Bessade ou machin.
La VS qui risque de monter en première division, purée. On s'est débarrassé de la Bessade.
Ouais, ouais, bah, on y croit à la non-montée. On les tuera avant. Donc voilà, on souhaite bonne chance à l'Académica Coimbra pour cette montée en deuxième division.
Phil.
Je voulais éviter, mais je suis obligé.
Les lumières, l'écran.
Non, mais.
Enzo Fernandez. Non, tu parles plus trop d'Enzo en ce moment, c'est bizarre.
De quoi?
Tu parles plus trop d'Enzo Fernandez en ce moment, il n'y a plus trop de mention spéciale.
Ah, je sais pas, je vois pas de qui vous
parlez. Regarde
pas
Chelsea. T'as raison.
Qui ça? Non, ça va. Je n'ai pas regardé l'équipe qui aligne Benoît Badiachil et Alex Disasi en centrale, quand même.
Ça, c'est pas très autorisé par la loi, ce genre de commentaire, monsieur Lacoste.
Mais non, mais parce que.
Il y a d'autres mauvais joueurs du côté de Chelsea.
Ouais.
Mais joueurs qui ne font pas le taf. Hein.
Je suis pas très fan, même de Gallagher et tout ça. Non, bah, mention spéciale. Mais ça va en Angleterre, quand même. En Angleterre, mention spéciale à Nunes Pelinsant, qui possède un des meilleurs gardiens d'Europe, qui a vu en Cup ce week-end voir son équipe prendre deux buts sur deux frappes cadrées et gagner 2-0. Ils se fait revenir à 2-2, ce qui est assez incroyable. Comme quoi, parfois, c'est dur de faire des frappes. Je suis bien content, du coup, d'avoir mon petit Ukrainien dans les buts, parce que ça change la vie. Hein. Comment ?
Je pense qu'on l'a compris depuis longtemps.
Ouais. Mais je crois que je l'ai déjà dit une ou deux fois, je crois. Peut-être plus.
Mais
ça change la vie.
On a une question pour moi de la part du père de Philippe.
Ouais.
Il me parle du Hugo Pires. J'avoue que je m'attendais pas à ça, mais bon.
Ouais, parce qu'il vient de chez moi, en fait.
Ah.
C'est pour ça. Okay. Et en fait, depuis qu'il sait que qu'il a rejoint Braga, il suit les résultats des
U15
et savoir s'il est titulaire.
Alors, il est titulaire, il est même convoqué en sélection, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ce qu'il
Malheureusement,
m'a
en
dit
fait,
aussi.
les U15 du côté du Sporting Club de Braga sont pas diffusés. Donc, je peux pas voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Bon, ça dépend, en fait, si on est qualifié en phase finale. Généralement, parfois, ça passe parce que le championnat U15 durera parfois jusqu'au mois de juin. Donc, on met des matchs juin-juillet. Donc, il passe les matchs. Donc, malheureusement, je ne le connais que de nom. Mais oui, il est titulaire. Bah, je le vois souvent appelé dans les stages des
En
U15 du
sélection, ouais.
Portugal. Donc, je lui souhaite de faire une très bonne carrière au club, même si je ne cache pas que les gardiens à Braga en formation, c'est un sacré niveau. Hein. Pas tous les postes,
Ah,
mais ce
vous avez une
poste-là,
belle,
c'est
belle fabrique, hein.
une petite, petite usine là qui marche plutôt pas mal. Donc, mais il a le temps, moi je suis qu'en U17, donc 2-3 saisons encore, hein, si performe. Au minimum. Après, je lui souhaite
Ok,
de faire mieux.
alors merci à vous, comme d'habitude. Merci Mathieu d'être présent ce soir. Merci à nos auditeurs. Merci à Louis qui devait être ce soir présent, mais on s'est mal compris. Du coup, il y avait tout sur le chat. Merci à tous les auditeurs, comme d'habitude, d'être présents ce soir, d'être aussi réactifs. Ça nous fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une émission. Du lundi soir, et on espère qu'on aura de bonnes nouvelles dans la semaine à suivre au niveau des transferts, etc. Et on vous souhaite à tous, encore une fois, une bonne année 2024. Bonne santé en priorité, encore une fois, et bonne soirée. Ciao,
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, et bonne année.